Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités
et on se fait aller Mâche Patate!
Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode du Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Si vous ne connaissez pas les urbainculteurs, ben vous pouvez vous douter quand même par notre nom qu'on va vous parler d'agriculture urbaine et de jardinage dans ce nouveau podcast. Je suis Marie-Hélène Dubé et je co-anime l'émission avec Marie-Hélène Jacques et aujourd'hui, on vous parle d'une incontournable du jardin.
Oui, c'est le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le mois des pommes, on pourrait dire, mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on vous parle. C'est aussi, pour les jardiniers, c'est le mois des tomates. On a parti les plants en quoi? Mars et avril. Oui, ça fait des mois, donc 6-7 mois qu'on cultive des petits bébés et qui sont rendus grands maintenant. Et c'est le temps de l'abondance de la tomate. Donc oui, là, si on a cultivé des tomates cerises, on en mange quand même depuis juillet. Mais mettons là qu'on est des cultivateurs de tomates italiennes. Là, c'est maintenant que ça se passe.
Yes, yes. Plein de tartes aux tomates ces temps-ci, c'est le fun. Mm-hmm. Et pour discuter de la tomate, ben qui de mieux que Lily Michaud, hein, qui est agronome, conférencière, experte du jardinage écologique et référence, je dirais, avec un grand air dans le milieu de l'agriculture urbaine, auteur aussi de plusieurs ouvrages sur le jardinage et qui a publié au printemps passé un livre de, croyez-le ou non, de 300 pages entièrement consacré à la tomate.
Bonjour Lily, bienvenue au Mâche Patate. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter puis un peu nous expliquer ton parcours, comment t'es passé d'agronome à experte de l'agriculture urbaine?
OK, ben bonjour les Marie-Hélène. Comment je suis passée d'agronome? Ben d'abord, je peux même reculer un petit peu avant l'agronomie, parce que l'agronomie, c'est ma deuxième carrière. Souvent, dans mon ancienne vie, j'étais infirmière. Et oui, ça surprend les gens, ben oui, souvent. Et je m'intéressais à la santé, c'est pour ça que j'avais fait ça, mais je me suis rendu compte que c'était la maladie dans les hôpitaux. Mm-hmm. Fait que je suis retournée aux études, j'ai fait mon cours en agronomie, me disant, je veux que les gens se nourrissent sainement, qu'ils soient en santé, qu'ils soient pas malades. Enfin, bref, c'est ça, j'ai fait ma formation. Et je trouvais que dans mes expériences de travail, c'était jamais assez orienté santé, nature, écolo. Donc, il y a 22 ans, j'ai parti ce que j'appelle ma petite entreprise, qui est principalement service de formation, d'éducation aux pratiques écologiques. Et c'est versé, comme vous en doutez beaucoup, sur les plantes comestibles, les plantes dont on se nourri. Je pense que vous allez d'accord avec ça, hein?
Ben.
et c'est ça. Et finalement, tomate, si on se rend à tomate, ben, c'est pas compliqué. Parmi, en tout cas, les plantes comestibles dont on se nourrit, je pense qu'une des plus populaires, pour ne pas dire la plus populaire auprès des jardiniers, c'est la tomate.
Bien entendu. C'est la reine.
C'est la reine.
Mais là, quand tu as choisi la tomate comme sujet de ton sixième livre,
c'est ça, hein? Oui.
Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais? Parce que là, tu t'es rendu à 300 pages. C'est ça, oui, que tu avais imaginé?
Oui. Oui, je savais dès le départ. Parce que même mon éditeur m'a dit, « Hey, as-tu de quoi à dire sur la tomate? » J'ai dit, « Mais... » Je savais où je m'en allais, là. Je savais que je parlerais, bon, des origines de la tomate, de la culture, des semis, les maladies, les insectes, mm-hmm, la conservation et même la cuisine, parce qu'à la fin, il y a des recettes. Alors, je savais que j'avais beaucoup à dire.
D'un point de vue d'un jardinier, mettons, débutant, ça peut faire quasiment peur d'avoir 300 pages? Est-ce que c'est parce que c'est une culture qui est compliquée qu'il faut autant de pages?
Non, c'est pas parce que c'est une culture, c'est compliqué. D'ailleurs, au départ, je dis, c'est vraiment, justement, c'est populaire, c'est parce que c'est une culture qui s'adapte bien pour tous les jardiniers, mm-hmm, même sur les balcons, en pleine terre, en serre, il y a plein de possibilités. C'est relativement facile de cultiver. D'avoir une bonne production, c'est autre chose. Des, mm-hmm, fois, les gens sont déçus parce que ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, c'est pour ça que oui, ça s'adapte bien, même pour les débutants, pour justement être moins déçus. Et ça s'adapte aussi, il est adapté aussi pour les gens qui sont plus avancés, parce que j'ai même un chapitre pour les jardiniers expérimentés, mm-hmm, qui voudraient aller plus loin là, dans la culture de la tomate.
Super. Tu mentionnais en passant que tu parles de l'origine de la tomate dans ton livre. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que la tomate vient d'Italie. Est-ce que oui. tu peux nous parler un peu d'histoire de la tomate, de son origine?
En fait, son origine, c'est l'Amérique du Sud. Elle est remontée tranquillement vers le Mexique. Et c'est les conquistadors espagnols, finalement, quand ils sont débarqués au Mexique, qui ont découvert plein de richesses, plein de trésors, que c'est pas le genre de trésors qu'ils cherchaient, mais ils ont découvert plein de légumes, dont la tomate. Ils l'ont ramené en Espagne. De là, s'est déplacé un peu en Italie. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les Italiens ils sont très fervents de tomates. Oui, ils l'ont développé vraiment beaucoup. Et tranquillement, c'est remonté en plus au nord de l'Europe. Ça a pris du temps parce que au départ, les Français, entre autres, pensaient que c'était une plante toxique.
Mm-hmm. Et pourquoi?
Parce que est la même famille que plusieurs autres solanacées mm-hmm. qui sont toxiques, mm-hmm. comme la mandragore, entre autres. Mm-hmm. Donc, elle a été longtemps considérée, les gens la cultivaient essentiellement pour sa beauté. Fait que les plants étaient beaux, mais ils mangeaient pas. Drôle. Oui, même les savants, même les agronomes disaient qu'ils étaient toxiques. Ah. Alors, ça a pris du temps, ça a pris presque 200 ans avec...
Avant que quelqu'un ose en manger.
Avant que quelqu'un ose en manger.
Croque là-dedans, par
puis, bon, elle est traversée avec les colons qui ont traversé finalement en Amérique du Nord. Puis tranquillement, ça a pris du temps aussi. Ça a pris un certain temps parce que sa réputation de toxique l'a suivi un peu. Là.
Ah ouais.
Étrange histoire, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent dans notre travail, tu sais, le feuillage est toxique oui. de plusieurs solanacées ou peut-être, en tout cas. Puis dans les CPE, souvent ils disent, ouais, non, on peut pas cultiver de la tomate parce que c'est toxique, les enfants vont manger les feuilles. Fait que c'est quand même une crainte qui pue sous la même forme et qui existe encore aujourd'hui, ouais, là.
Effectivement.
Puis justement, les conquistadors, là, quand ils sont arrivés, ils ont sûrement pas découvert exactement la tomate qu'on connaît aujourd'hui, là. Tu sais, on lit selon les différentes sources, je sais même plus sur quel chiffre tu t'es arrêté, toi, mais qu'il y a 1500? Non. 15 000.
Rajoutez
un
zéro, s'il vous plaît.
Au-delà de 15 000 aujourd'hui, là. C'est ça. Donc, elle a sûrement changé de visage au fil des centaines d'années.
La petite tomate qui est origine d'Amérique du Sud, au point de départ, c'est une petite tomate, une minuscule petite tomate. Quand je disais tout à l'heure qu'elle a remonté tranquillement au Mexique, les Mexicains avaient quand même, par sélection, commencé à développer des fruits qui peuvent ressembler un peu à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Puis là, quand on choisit de cultiver des tomates, là, le printemps prochain, là, puis qu'on sait, on entend ça là, qu'il y a 15 000 variétés. Oui. Soit on s'évanouit de panique, ou bien on demande à Lily, comment choisir les tomates? C'est quoi la différence entre les hybrides, les ancestrales? Comme éclaire-nous.
Souvent, on me dit, c'est la question qu'on me pose très, très souvent, c'est Lily, c'est quoi la meilleure sorte de tomate? Mais il y en a tellement, d'abord, faut vérifier quel est notre besoin. Est-ce que je vais cultiver en pleine terre? Est-ce que je vais cultiver en pot? Quelle est ma zone de rusticité aussi? Est-ce que je cultive à Québec? Est-ce que je cultive au Saguenay? Le temps de croissance n'est pas le même. On choisira pas nécessairement les mêmes variétés. Est-ce que je vais aller vers une hybride, une pollinisation libre? Bon, si je suis un petit peu plus orientée vers la protection des anciennes variétés, ben je vais peut-être aller plus dans les pollinisations libres.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que si on a un plant à pollinisation libre, ça veut dire que si j'ai une seule variété de tomates, à la fin de l'été, je peux récolter des graines et je peux m'assurer que je vais pouvoir les replanter l'année prochaine, je vais avoir quelque chose de semblable. Si je cultive des hybrides, à ce moment-là, si je récolte les graines, il peut y avoir une recombinaison de gènes à peu près n'importe quoi, et ce que je vais récolter, ça risque d'être très décevant. Parce que les caractères sont pas fixés. Alors que pollinisation libre, les caractères sont fixés.
On pourrait fixer éventuellement des hybrides.
Oui,
c'est le travail des semenciers, Merci à tous les moines qui l'ont fait.
Oui,
hein?
oui. J'explique dans mon livre, justement, pour les jardiniers plus avancés, qu'on peut même créer sa propre variété de tomates. Mais tu sais, ça prend 10 ans, 8 ans, 10 ans. Il faut être très patient.
Sauf qu'on va pouvoir lui donner notre nom si on veut, tu sais.
Oui.
Pensez-y. Un héritage, oui.
C'est un peu comme découvrir une étoile, là, tu sais. on sait là que justement la tomate est un de tes sujets de prédilection, tu en parles beaucoup, donc j'imagine tu as fait un tas de conférences, t'es souvent interviewé à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des mythes sur la culture des tomates que t'es plus capable d'entendre, qui reviennent toujours?
Des mythes sur la culture de tomates. Mais il y a beaucoup de contradictions au sujet de genre, l'es-tu les gourmands? Genre,
le pas sujet. Les gourmands.
Peut-être dans nos questions à venir, Lily.
Oui. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, il faut que je prenne le temps d'expliquer si on doit les enlever, pourquoi, dans quel cas.
Dis-nous le don.
Ben oui, OK, vous voulez vraiment le savoir. ben, dans un premier temps, il faut savoir si c'est une variété de culture déterminée ou indéterminée. Ça, c'est une première chose. Les gens sont toujours un peu surpris quand je leur dis ça.
Hein? Alors, ça donne l'impression, ils ont souvent l'impression qu'indéterminé, on sait pas c'est quoi le genre de tomate qu'on va avoir.
Alors que c'est pas ça du tout. Déterminé, c'est que le plant pousse jusqu'à une certaine hauteur, plus ou moins un mètre, ça peut être moins que ça, ça peut être un peu plus que ça, et quand il arrive à sa hauteur déterminée, là, il va faire des fleurs et il va faire des fruits à peu près en même temps, sur une assez courte période. La majorité des cultivars plus modernes, les hybrides, c'est souvent des déterminés. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Indéterminés, le plant pousse tant et aussi longtemps qu'on l'arrête pas de pousser. En serre, vous avez déjà vu les producteurs en serre, comment ils fonctionnent. Le plant est là durant 8-10 mois, puis au bout, il peut avoir jusqu'à 15 mètres là. Mm-hmm. Il est pas cultivé sur toute sa longueur, mais il peut être très, très long. Fait que ça, c'est une première chose. Faut savoir déterminer ou indéterminer. Si on cultive des déterminés, c'est pas nécessaire d'enlever les gourmands. En passant, c'est quoi un gourmand?
Oui.
Un gourmand, ce qui pousse à l'aisselle de la tige principale et d'une feuille. Une feuille, les feuilles de tomates, ce sont des feuilles composées. Hein? Mm-hmm. Alors, c'est vraiment ce qui pousse à l'aisselle. Donc, déterminés, on les enlève pas. Indéterminés, ça dépend. Là, on a le choix. Si c'est vraiment des mini-tomates, des petites tomates, ça produit tellement que c'est pas nécessaire de les enlever. On peut des fois réduire un peu parce que ça peut devenir quasiment une forêt, là, mm-hmm. mais c'est moins obligatoire parce qu'on sait qu'ils vont plus davantage se rendre à maturité. Indéterminé, ben là, on a le choix. Si on décide de pas les enlever, là, on va avoir, le gourmand va se transformer en tige secondaire et là, on va avoir beaucoup de fruits. Mais le problème, c'est que si l'été est plus court puis qu'il est pas aussi chaud que cet été, ben ça se peut que tous ces fruits-là aient de la misère à se rendre à maturité. Si on décide de les enlever, on va peut-être avoir moins de fruits, mais ils vont être plus gros et on a plus de chances qu'ils arrivent à maturité sous nos conditions.
Une réponse tout en nuances.
Tout en nuances, c'est ça.
Voilà, éclairé, chers auditeurs.
C'est la question, tu l'as dit hein, tantôt, les gens veulent toujours savoir c'est laquelle la meilleure tomate, oui. Mais nous
oui.
aussi,
oui. Oui.
nous aussi on est ces gens-là, on se dit à la rigueur okay. tu peux faire un top 3, okay. tu sais.
Ma réponse habituelle, c'est la meilleure tomate, c'est la première tomate qui va être mûre dans votre jardin sur votre balcon. Ça, c'est la meilleure tomate.
Parce qu'on a hâte d'y goûter.
On a tellement hâte, puis ça a tellement pas rapport avec la tomate d'épicerie, c'est la meilleure tomate. Le top 3, c'est difficile.
Juste rappeler aux auditeurs qui le savent pas, dans ton livre, tu parles de 200 tomates différentes.
Oui, oui.
Et là, je crois, un petit oiseau m'a dit que tu les as toutes cultivées et goûtées. Est-ce vrai, Lily?
Pas toutes. J'ai cultivé davantage les indéterminées, les variétés anciennes, parce que c'est plus celles que je préfère. J'ai peut-être moins cultivé les hybrides parce qu'ils sont plus communes, sont déjà assez connues.
OK. T'as vraiment fait un travail d'exploration, les tomates
connues. Oui, oui. L'an passé, je n'avais 115 variétés. cette année, j'en ai juste 60. Je trouve ça pas beaucoup.
Juste 60.
Non. Donc, c'est ça. Si on revient au meilleur, c'est très embêtant parce que si je peux nommer quelques variétés, mais les gens vont vouloir les chercher. Puis s'ils achètent en plant, c'est plus limité l'offre de plants. S'ils ont la possibilité d'acheter en graines, ben là, il y a énormément plus de possibilités. Je peux en nommer quelques-unes.
Oui, préparez-vous les semenciers avec les codes d'écoute qu'on va avoir. Ça va sortir cette année, ces tomates-là. Attention, l'opinion de Lily.
Une que j'aime beaucoup, qui est une variété ancestrale du Québec, la mémé de Beauce.
Mm-hmm.
La mémé de Beauce, une belle grosse tomate. Je l'aime parce qu'elle est savoureuse. Alors, ça va très, très bien en sandwich. D'ailleurs, votre pain est mieux d'être assez gros parce que les tomates sont assez grosses. et sont délicieuses comme ça à l'état frais et sont intéressantes aussi pour faire des conserves, pour faire des sauces parce qu'ils ont beaucoup de chair.
OK.
Fait qu'ils sont vraiment intéressantes. Fait que c'est une parmi tant d'autres.
Je sais pas si tu peux confirmer ça, mais j'avais entendu dire que la mimite Beauce, elle provenait de semences qui avaient été retrouvées dans une maison en Beauce. Fait que c'est comme une variété inconnue.
Oui.
Ben, disparu, inconnu, qui a été renommé, c'est ça.
C'est
ça, hein?
C'est vraiment ça. Un sachet de semences qui avait été retrouvé dans une maison abandonnée. Et, selon certains voisins, ça faisait plusieurs dizaines d'années que cette maison-là était fermée. Fait que ça a été récupéré par les gens de Semences du patrimoine et ils ont fait des tests puis ont réussi à faire germer de ces semences-là et c'est reparti de ça. Donc, c'est vraiment une tomate qui a été sauvée.
Mais oui, mais c'est quand même toute une histoire parce que quelqu'un peut tomber sur un sachet de semences de tomates puis pas identifier que c'est ça puis mettre ça dans les poubelles, là, tu sais. Ouais. C'est comme un merveilleux un
trésor,
hasard.
Ça, ouais. C'est un trésor qui a été trouvé, là. C'est extraordinaire.
Et la tomate du top 3 suivante, le top numéro 2?
Numéro 2, je ne les mets pas vraiment en ordre. Dans mon livre, c'est ça, j'ai osé mettre mes coups de cœur, mais j'ai hésité beaucoup parce que, justement, aussi, c'est... Moi, je vais aimer certaines tomates, puis vous autres, peut-être, cette aurait été une autre, ça fait que ça dépend beaucoup des goûts. La Brandywine, toujours quand même une tomate que les gens apprécient. Dans les tomates de couleur, la noire de Crimée, qui est pas vraiment noire, mais qui est rouge, pourpre foncé, qui est assez goûteuse, là. Donc, c'est trois, mais il y en a tellement.
Puis je comprends.
C'est difficile. C'est difficile d'en aimer trois.
Toi, Marie-Hélène, as-tu une variété que tu préfères de tomates?
Et moi, je vais être super plate, là. Ouais. J'avoue que j'aime les tomates bonbons, les tomates super sucrées. Ben oui. Puis c'est un hybride F1. Ben oui. Puis la Sun Gold.
La Sun Gold.
Quand même.
Ben, elle est quand même bonne.
Ben, tu sais.
Elle est quand même bonne, je dois le dire.
C'est comme...
C'est mini, là.
Tu t'as des jujubes ou t'as de la Sun Gold, puis tu vas vers la Sun Gold, là, il y a comme...
Je de Marie-Hélène, c'est quelque chose.
Mais parce que j'aime que dans la Sun Gold, il existe une variété à pollinisation libre.
Mais c'est ça, j'ai découvert ça tout récemment.
Oui.
Ouais, ça m'a fait du bien à mon cœur.
Oui.
Merci à celui qui l'a fixé.
Oui.
Toi, tomate préférée?
J'en connais peut-être moins, j'en ai moins cultivé plusieurs variétés, mais j'ai eu un coup de cœur pour la Green Zebra, moi, la première fois que je l'ai cultivée. Je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'en ai fait des tomates confites, puis je trouvais que c'était vraiment bon. Confits, ils sont super sucrés, puis tu sais, leur couleur est comme vert-bleu, là, c'est super intéressant.
Ouais, puis c'est cool pour ceux qui jardinent, mettons, en façade de leur maison, puis qui veulent pas se faire voler leurs tomates, parce que comme elle est verte, quand elle mûre, les gens... Je pense pas qu'elle est prête, puis
j'avais
la vole
pas. Pensé à ça.
Oh oui, non plus, j'avais pas pensé à ça.
Dans
c'est
même
idée.
Ma limite dans un jardin communautaire. Ouais, c'est la compétition, puis t'as peur de faire voler tes tomates, là,
Absolument. Agriculteur urbain en espace public, envisager la Green Zebra.
Oui, mais j'ai pas de Green Zebra devant chez moi, j'en ai d'autres, des belles grosses, puis ils sont toujours là.
Ah, bon, ben.
T'as un voisinage paisible.
Respectueux. Ben, je sais pas, ils s'imaginent pas qu'ils puissent avoir des tomates en façade d'une maison. Peut-être.
On est en septembre, il y a une erreur, je crois, classique, là, dans ceux qui se mettent à jardiner, qui cultivent des tomates. À moins de rater leur coup, finalement, puis que ça marche pas bien, on peut être surpris par la productivité puis par le nombre de tomates qu'on récolte comme toutes d'un coup, toutes en même temps. Est-ce que t'as une manière préférée de les conserver, de les apprêter, qu'est-ce que tu fais avec tes tomates?
Plusieurs manières de les apprêter, de les conserver. C'est sûr que la meilleure façon de les manger, c'est à l'état frais. Là, on s'entend qu'une bonne tomate de table, là, ça n'a pas d'égal. Alors, je me bourre carrément de tomates fraîches, c'est sûr, quand c'est la période. Mais là, manée, quand ça s'accumule et que là, j'ai ni le temps de les gérer à long terme, par exemple en conserve, comme j'aime bien faire, je les congèle, ronde, là, je les mets carrément, je les mets sur un plateau, je les mets au congélateur pour au moins 24 heures, après ça, je les ensache, et j'ai le choix, soit quelques semaines après, quand j'ai le temps, puis qu'il fait plus frais, surtout, je les mets en conserve, en sauce ou en tomate nature, ou je peux les conserver comme ça, puis le faire plus tard durant l'hiver et les utiliser, justement, dans les sauces, dans les dans les soupes ou n'importe où, c'est très, très facile. Pour les gros, je fais ça. Pour les petites, là, je les prépare un peu plus, j'enlève le petit pédoncule, je les nettoie comme il faut, et je les congèle en portions de 2 tasses ou 4 tasses, parce que durant l'hiver, j'ai plusieurs recettes que je fais avec des mini-tomates. Ça fait que même les mini-tomates, les gens disent ça, je sais plus quoi faire avec mes mini-tomates. Il y a plein de choses qu'on peut faire. J'ai mis des recettes dans mon livre avec des mini-tomates. Il y a des sauces qu'on peut faire avec les mini-tomates qui sont savoureuses, là, vraiment. Là. Donc, on laisse pas ça sur le plan. On ramasse tout. Et même mes tomates congelées que j'avais congelées au mois d'août, la semaine dernière, je les ai sorties du congélateur. Je les ai transformées en sauce. J'ai vraiment fait une sauce avec. Puis j'ai fait ma sauce à spaghetti végétarienne pour l'année avec mes tomates. Parce que ce qui arrive, ça arrive tout d'un coup, mais en même temps, ça arrive progressivement aussi quand on a un petit jardin puis qu'on n'a pas 200 plants de tomates. Donc, pour avoir assez pour faire une grosse recette, ça peut être intéressant de faire ça.
Mais tu viens de régler le problème de ma fin de semaine parce que je m'en allais aller à l'auto-cueillette de tomates italiennes puis je voyais pas comment j'allais aussi réussir dans un court laps de temps à les canner. Mais là, je peux les congeler puis les canner par après. Oui. Je me sens tellement soulagée, Lily.
Ça me fait du bien, ça va soulager.
Oui, j'aurais pas pensé, mais est-ce qu'ils fondent dans le congélateur?
Ben, c'est sûr que c'est pas des tomates qu'on va manger en sandwich après, non, c'est que c'est la texture va se modifier, ça c'est certain. Mais c'est tellement facile à utiliser, puis si on veut pas garder la peau, ben on a qu'à les passer simplement en dessous de l'eau courante, puis la peau s'enlève facilement.
OK.
Lily, en conclusion, est-ce que tu peux nous glisser un mot sur ton ouvrage?
Oui. Alors, mon dernier ouvrage, La tomate de la terre à la table. Alors, qui est sorti en avril dernier, 300 pages de tomates. Alors, ça dit un peu que je suis passionnée de tomates. Et c'est ça, alors on y trouve à peu près tout, à partir du semis justement, jusqu'à la récolte, la conservation, l'utilisation, toutes les méthodes de conservation. Alors, on a parlé de congélation, mais on a parlé de mise en conserve, déshydratation, des recettes aussi, des recettes simples. Je me suis associée avec des cuisiniers, des cuisinières qui ont déjà développé des recettes. Alors, c'est ce que j'ai inclus dans mon livre, là. Alors, je pense que j'ai
trouvé... Est-ce qu'on a le droit à tes recettes secrètes préférées?
Oui, il y a quelques recettes, quelques petites recettes assez secrètes. Ben, ils sont plus vraiment secrètes. Entre autres, la recette de pâte au mini tomates, là, vraiment, là, ça qu'on peut faire été comme hiver avec les mini tomates qu'on a congelées, là. C'est vraiment délicieux et ça sent, on fait ça durant l'hiver au mois de janvier, là, et ça goûte le soleil, ça sent le soleil dans la maison, c'est incroyable.
Puis où est-ce qu'on peut se procurer le livre? Si
dans toutes les bonnes librairies, souvent les bonnes librairies parce que s'ils l'ont pas, mais non, mais en fait, si vous le trouvez pas, faut le demander, faut pas se gêner de le demander, ou sinon on peut le commander directement chez mon éditeur, les éditions Multimonde. Quand je donne des cours, des conférences, j'en ai aussi, là, c'est possible d'en acheter directement de moi.
Ben merci beaucoup, Lily.
C'est ça, ce qui plaisir.
Conclut merci. Notre entretien avec Lily Michaud, la pro de bien des choses et beaucoup des tomates. Et nous, juste avant la conclusion de cet épisode 2 du Mange Patate, on s'en va écouter la toute première capsule horticole qui s'appelle « Ah, les petits pois ». Donc, la capsule horticole va être présentée à chaque podcast et elle est animée par Marie-Andrée Asselin, qui est une horticultrice hors pair fantastique d'une capacité de vulgarisation exceptionnelle, qui est avec nous depuis 2015 aux Urbains Culteurs. Donc, on se laisse sur la première capsule du podcast.
Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.
Vous avez profité tout l'été de la fraîcheur des fines herbes de votre potager et l'idée de ne plus y avoir accès pour l'hiver vous rend triste? Essayez d'en entrer quelques-unes afin de les cultiver dans votre maison. Si vous entrez des fines herbes pour la première fois, commencez petit en vous concentrant sur 3 ou 4 plants. Je vous propose de commencer avec quelques vivaces rustiques, c'est-à-dire des fines herbes qui sont adaptées à nos hivers et reviennent année après année, comme le thym, la menthe, la mélisse et l'origan. L'intérêt avec ces cultures, c'est que vous entrez seulement une partie du plant à l'intérieur. Vous pourrez donc profiter de cette fine herbe à nouveau au potager l'an prochain. Faites cette opération lorsque la température extérieure descend sous la barre des 10 degrés la nuit. Toutefois, si vous voulez entrer l'estragon ou la ciboulette, sachez que ces fines herbes aiment bien subir un petit gel. Attention, 2 à 3 degrés sous zéro est considéré comme un petit gel et non 10 degrés sous zéro. Pour procéder, retirez à l'aide d'une pelle bien aiguisée environ un tiers du plant qui se trouve au sol. On coupe un tiers des feuilles et un tiers des racines, puis on plante dans un pot avec un terreau horticole neuf. Le pot n'a pas besoin d'être immense, seulement un peu plus grand que la grosseur du plant. Prenez le temps d'inspecter vos plants afin de ne pas entrer de ravageurs à la maison. Soyez minutieux en soulevant chaque feuille, vous vous éviterez bien des soucis, surtout si votre maison est remplie de plantes d'intérieur. Dans le doute, vous pouvez mettre vos herbes en quarantaine pour une durée de 2 à 3 semaines. Vos fines herbes devront être placées à un endroit où elles pourront bénéficier de 5 à 6 heures d'ensoleillement par jour, de préférence sur le bord d'une fenêtre orientée sud ou ouest. Vous pourrez les tourner un peu chaque semaine et vous n'aurez pas besoin de les fertiliser avant la mi-février. Le chauffage assèche beaucoup nos maisons l'hiver, alors pensez à mettre une soucoupe remplie d'eau à proximité de vos plants afin de leur fournir un peu d'humidité. Au printemps, vous pourrez retrouver vos herbes au potager, alors pourquoi ne pas offrir en cadeau celui que vous aurez mis en pot?
Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode du Mâche-Patate. On espère que vous profitez pleinement de la saison des tomates et que ça vous a donné le goût d'en cultiver l'an prochain, si ce n'était pas déjà fait. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, évidemment, pour le prochain épisode. D'ici là, abonnez-vous au Mâche-Patate et suivez les Omaculteurs sur Facebook et Instagram. Ciao!
Merci d'avoir écouté Mâche-Patate. Je suis Jasmine Tremblay-Bouchard, stagiaire en communication aux Urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'écouter a été animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. À l'enregistrement et au montage, l'indispensable Dominique Mani. À la recherche, Marie-Hélène Dubé. Rendez-vous au prochain épisode!